18h précise, on est toujours le mardi 16 novembre 2010. Vous écoutez toujours l'aérospatiale en compagnie de Julie Gagné, Jacques Gignac est à la mise en onde et Dominique Savoie qui se fait très discrète mais qui prendra la parole, ma foi, avec éloquence en fin d'émission. Je le répète, si vous voulez nous écrire, aérospatiale.ckrl@gmail.com. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Vous savez aussi qu'en ce moment, c'est la récolte des votes pour le gala de CKRL. Donc, vous pouvez aller voter sur le site ckrl.qc.ca pour la meilleure émission, le meilleur choix musical, le meilleur concept. Il y a toutes sortes de catégories et c'est comme la remise des prix dans une fête de CKRL à la fin novembre. Avant d'aller voter, restez avec nous. On rencontre à l'instant Anne-Marie Ninax, qui est commissaire pour l'exposition Chimère Shimmer, présentée au Musée national des beaux-arts du Québec. Bonjour.
Bonjour.
L'exposition va bien? Vous allez bien?
Oui, je vais très bien. Une fois que l'exposition est ouverte, tout le monde va bien.
Tout le monde respire?
Oui.
Dites-moi, Anne-Marie Ninax, le musée vous a donné carte blanche pour cette exposition-là.
Oui.
Comment est-ce que vous en êtes venue à la thématique Chimère Shimmer?
C'est toujours un processus un peu mystérieux, c'est-à-dire qu'on part avec des idées qu'on a, des préoccupations, des lectures qu'on fait, et puis on arrive avec tout ça devant la collection, c'est-à-dire on a un ensemble précis d'œuvres avec lesquelles on peut travailler, et c'est toujours un petit peu de l'ordre du jeu, c'est-à-dire assembler des objets qui sont déjà là plutôt que d'aller chercher un petit peu partout ailleurs. Et puis moi, je dirais personnellement que je me laisse beaucoup guider par les objets, c'est-à-dire que j'ai confiance en tout ce bagage avec lequel j'arrive et je regarde tout ce qu'il y a dans la collection, au départ avec un exercice assez systématique, des acquisitions année par année, et je retiens certaines œuvres et tout à coup le thème se révèle. Dans ce cas-là, l'œuvre qui a été clé, ça a été la vidéo Shimmer de Nelson Henricks, en fait, qui a fait un peu le lien entre plusieurs des éléments que j'avais retenus assez intuitivement.
Et qu'est-ce qui fait que cette œuvre-là, c'est une œuvre clé, justement?
Elle répondait à des questions que j'avais. C'est une œuvre qui date de 1995. C'est juste assez de recul dans le champ de l'art actuel pour sortir les œuvres de leur lecture habituelle. Au moment où elle a été produite, on parlait beaucoup d'études culturelles, de gender studies, de questions d'identité, mais à un niveau plus culturel, et je pense que c'est la lecture qu'on en faisait. Et tout à coup, avec un peu de recul, ça me permettait de l'articuler dans le champ de la conscience, un petit peu plus large, des questions identitaires plus vastes, plus humaines que culturelles. Et je trouve que c'est un travail qui est en soi important à faire dans les institutions, c'est-à-dire pas garder les œuvres toujours dans la lecture première qu'on leur a donnée, mais essayer de les réinterpréter, de les regarder à nouveau, d'essayer d'en comprendre le sens dans différentes circonstances. Donc ça m'a intéressée. Et puis le propos que tient Nelson Henricks tient vraiment la route. Après 15 ans, la poésie de cette œuvre est toujours aussi forte, les questions existentielles qu'il pose toujours aussi pertinentes, et c'est ce que j'ai voulu montrer.
Puis, Shimmer, ce ne sont pas des traductions, en fait. Ça ne veut pas dire tout à fait la même chose. Quel lien est-ce que vous établissez entre les deux concepts?
La question qui ressortait des œuvres que j'avais sélectionnées, c'était la question de l'illusion, je dirais, au sens le plus large, c'est-à-dire dès qu'on a l'impression qu'on sait, si je me réfère encore à cette œuvre centrale de Shimmer, on a l'impression de savoir qui on est, mais dès qu'on se met à chercher un petit peu d'où on vient, qui sont nos parents, qui sont nos ancêtres, comment est-ce qu'on se sent, qu'est-ce qu'on a à dire, comment on est en relation avec les autres, toutes ces choses-là ça apparaissent plus friables qu'elles le sont dans notre appréhension au quotidien. Et c'est ce côté un peu illusoire des choses qui nous semblent fermes que j'ai eu envie de montrer. Les deux mots réfèrent un peu à ça, c'est-à-dire la chimère est un assemblage, un composite de différents animaux, Et la shimmer, ça veut dire miroitement, chatoiement. Là aussi, les questions d'illusion et de reflet. La raison pour laquelle j'ai assemblé ces deux mots-là, alors qu'ils ne sont pas de parfaite traduction, c'est qu'ils référaient déjà à différentes caractéristiques des œuvres dans l'exposition. Certaines œuvres sont des chimères, donc des animaux un peu étranges, et d'autres œuvres sont faites de miroitements. Il y a beaucoup de jeux de verre, de reflets, de chatoiements dans l'exposition, donc ça me permettait de nommer une réalité plastique des œuvres, mais aussi de montrer comment nos esprits fonctionnent par montage, c'est-à-dire rassemblent des choses qui semblent se répondre, qui se répondent, qui ont des résonances, mais qui en même temps ne sont pas tout à fait pareilles. Donc les œuvres, comme je les ai assemblées dans l'exposition, fonctionnent un peu sur ce mode-là aussi, des résonances très fortes au niveau de leur forme, mais en même temps des dissonances à d'autres niveaux.
Mais dans les deux cas, en fait, dans les deux cas, non. Dans l'ensemble, on se situe pas mal toujours en territoire de rêve, en territoire d'intimité.
Oui. Oui, c'est le territoire qui m'intéresse. Il y a des gens qui voyagent partout sur la planète, qui rêvent d'aller dans la Lune. Sur la Lune, moi, le territoire que je ne cesse d'investiguer, c'est celui de notre intériorité. Alors oui, on se tient toujours un peu là. Et dans les marges, je dirais, de cette intériorité, là où les choses, comme je le disais tout à l'heure, se défendent, deviennent un peu moins solides et on avance un petit peu vers l'inconnu.
Et puis, dans la disposition, en fait, de l'exposition, vous le disiez, vous avez cherché à mettre de l'avant des résonances entre les œuvres. Mm-hmm. Pouvez-vous nous donner, par exemple, des exemples de résonances que vous avez vous-même observées?
Il y en a plusieurs, c'est-à-dire, par exemple, à la fin de la vidéo Shimmer de Nelson Henricks, il y a l'image de quelqu'un qui tire un fil d'entre ses lèvres et la voix parle de la communication entre les êtres. C'est un fil qu'on retrouve dans les dessins de Massimo Guerra, où il y a des personnages qui sont liés par des espèces de réseaux de fils. C'est une image qu'on retrouve un peu différemment, moins autour de la bouche, mais de l'oreille, avec une œuvre de Betty Goodwin qui s'appelle « How long does it take for any one voice to reach another? » Alors, combien de temps ça prend une voix pour en rejoindre une autre? La question de la voix, à ce moment-là, de la parole. La question des fantômes revient, elle est déjà dans l'œuvre de Henricks, revient dans l'œuvre de Peter Krause, des lieux qui sont habités, dans lesquels on revient, où on vit différentes expériences. Ça se passe chez Pierre Dorion. Il y a du côté des chimères, plus proprement dites. Il y a les petites sculptures de Nixikua qui sont des esprits des animaux. On a l'esprit de l'insecte, l'esprit de l'oiseau, l'esprit du caribou. Et chez Massimo Guerra, encore dans un autre travail, il y a une sculpture composite qui est un peu comme l'esprit du frère, d'un frère perdu qu'on essaie de recréer. Alors il y a vraiment des allers-retours entre les œuvres comme ça. Quoi d'autre encore? Une situation entre l'absolu, l'infini, je dirais, physique et le plus physique, c'est Alain Paiement, avec une ouverture vers le ciel, et puis une autre qui va dans une cave pleine de débris, et semblablement chez Claire Savoie, une allumette qui est craquée dans le noir, et avec une voix qui dit toujours et jamais. Donc à ce moment-là, des références plus temporelles, mais aux mêmes questions d'infini et de fini.
Et dans tous les cas, en fait, le ressenti est émotif. Est-ce que vous avez cherché à créer justement un parcours qui est ressenti puis qui questionne peut-être le spectateur par rapport à sa propre intériorité?
Oui, c'est certain. Dans tous les cas, c'est très émotif, mais c'est à la fois très rigoureusement conceptuel. C'est-à-dire, les artistes font des choix très... très précis, et puis c'est pas qu'un parcours impressionniste. Cela dit, pour moi, c'est toujours très important, quand je prépare une exposition, de préparer une expérience. Ça m'intéresse moins de faire une présentation qui est de l'ordre du discours, c'est-à-dire où on ferait une démonstration d'une œuvre à l'autre, où les œuvres serviraient d'appui à un discours plus rationnel. Je veux d'abord qu'il y ait une expérience physique, sensorielle, des choses et que le discours que j'essaie de tenir, puisqu'il y en a un quand même, passe d'abord par cette expérience et soit ensuite soutenu par, par les textes au mur. Alors oui, j'ai cherché par la distribution des œuvres à créer un peu ce parcours, en créant un peu des surprises, des recoins dans l'exposition, en travaillant le son aussi pour qu'il accompagne le visiteur d'une manière un petit peu subtile, mais toujours là, un peu comme des atmosphères qui nous suivent. Et à ce moment-là, ça donne effectivement une atmosphère assez émotive.
Puis c'est peut-être, je pose la question, en fait, est-ce que c'est pour ça aussi, parce qu'il n'y a pas vraiment de texte qui présente le parcours, mais vous en avez fait un dans le catalogue de l'exposition où là, vous livrez un essai où vous proposez votre propre lecture.
Mm-hmm.
Donc, ça se fait un peu en deux temps?
Ben en fait, il y a plusieurs textes dans l'exposition, alors on peut faire ce parcours. C'est sûr que il y a une grande différence entre l'espace tridimensionnel d'une exposition et la ligne de mots à laquelle on a accès quand on écrit un texte. Quand on écrit le texte sur l'exposition, on est forcé de faire une séquence précise d'œuvres et de les rappeler à l'occasion si on veut créer des liens dans une troisième dimension, si je veux, alors que les liens entre les œuvres, quand on est physiquement dans une exposition, se font selon les angles qu'on prend. Et c'est certain, donc il y a un parti à prendre dans le cheminement qu'on va tracer. C'est les œuvres qui l'indiquent, par exemple, pour moi. Quand j'écris, le parcours, il se fait d'une œuvre à l'autre. C'est comme si une œuvre, surtout dans un cas comme celui-là, c'était une œuvre qui entrait en résonance avec une autre. C'est les mots que j'employais ou les mots qui étaient utilisés par l'artiste ou parfois certaines couleurs qui m'amenaient d'une œuvre à l'autre.
Anne-Marie Ninax, merci beaucoup.
Ça me fait très plaisir.
Donc, pour aller vous plonger dans l'ambiance, dans l'atmosphère, dans ce parcours-là, c'est au Musée national des Beaux-Arts du Québec. C'est l'exposition Shimmer qui est présentée jusqu'au 3 avril 2011. On s'en va en pause audio, on écoute Birdsong. Au retour, Dominique Savoie nous parle de Tania Lyons et de son exposition Dressing Up. C'est sur les ondes de CKRL. Alors, un court extrait de la pièce Bird Song de Substation, un album de Robin Fox et de Clayton Thomas, deux artistes australiens. Proposition d'Éric Dorion. Je le répète, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur Internet l'étiquette room40.org. Pour la fin de l'émission, on discute avec Dominique Savoie. Tu nous parles de l'exposition de Tania Lyons. Bonsoir.
Oui, salut. Oui, son exposition Dressing Up. Qui a lieu à la galerie Materia jusqu'au 19 décembre, il me semble.
Exactement.
Donc, Tania est une artiste du verre qui propose, dans le cadre de cette exposition-là, une exposition qui est plutôt vestimentaire.
Des vêtements en verre.
Donc, en partie en verre. Donc, Sa collection, dans le fond, repose sur un travail qu'elle avait commencé à aborder, à explorer, disons, pendant des études qu'elle a fait au Japon, un séjour, je crois, d'un an au Japon, il y a quelques années. Puis elle s'était interrogée sur la symbolique du kimono, qui est le vêtement traditionnel japonais. Et donc, ça l'avait un peu fascinée, toute cette symbolique, l'icône que représentent les kimonos dans la culture japonaise. Et ça l'a amenée graduellement à s'intéresser à la question identitaire. Donc, la question identitaire par rapport aux vêtements. Donc, la place du vêtement dans la société, dans nos vies. Quel rapport on a avec le vêtement? Souvent...
Son image qu'on projette.
Exactement. Le besoin aussi qu'on a de se vêtir et des fois même de changer de vêtements. Donc, on se sent mieux si on change de vêtements. Comment on se sent selon si on se vêtit. Donc, c'est un peu les questions qu'elle se posait comme point de départ. Ça fait déjà quelques années qu'elle aborde cette question-là. Il y a certaines des œuvres qui nous sont présentées qui datent des années 2002-2004.
Ah oui, donc quand même, ça fait vraiment un temps, là.
Exactement. Donc, on parle de 5-6 ans déjà. Et par contre, elle nous propose plusieurs nouvelles œuvres de cette année. Parmi celles-ci, on en a quelques-unes, moi, qui m'ont peut-être frappée davantage. Entre autres, quand on entre dans la galerie, la façon dont l'exposition a été mise en scène. Donc, on entre, puis c'est une espèce de corde à linge, en fait, qui nous reçoit. Une corde à linge avec des sous-vêtements. Il faut dire que Tania Lyons travaille avec le verre, mais travaille aussi avec d'autres matériaux. Elle récupère beaucoup de matériaux ici et là, mais aussi elle travaille avec certains objets qui... Bon, j'ai posé la question, mais j'ai pas eu tout à fait la réponse, mais qui doivent être faits industriellement, comme par exemple un quadrillage, mais qui ressemble plus à un tissage de métal qui lui sert de structure de base pour ses vêtements. Parfois, ce sont des tissages qui sont de laiton pour donner une coloration dorée ou encore de cuivre qui permet justement l'oxydation et donc le changement de couleur, donc l'évolution du vêtement ou encore tout simplement en acier inoxydable. Et cette structure-là, donc de tissage, lui permet donc de donner la forme de la robe, donc travailler la forme en volume et elle agrémente, elle l'ornemente donc ces vêtements-là à l'aide du verre.
Donc, il n'y a pas de tissage du verre en tant que tel.
Non, c'est ça.
Moi, pas jusqu'à
je m'attendais
avoir
à ça quand je m'attendais à ça, mais non, finalement, le verre sert vraiment d'objet d'ornementation, dépendamment des robes, en fait, des œuvres, puisque souvent, ils ont une thématique. L'ornementation va varier. Entre autres, on en a une qui s'appelle « The Traveler », donc qui repose sur un mannequin de couture. Donc, c'est un peu... comme c'était le vêtement du voyageur d'antan, donc avec les outils dont il a besoin pour survivre. Donc, ces outils-là sont généralement conçus justement en verre. Donc, on retrouve une genre d'immense fiole bouteille, donc qui est agrémentée d'une cordelette, disons, faite en cette fois-ci en tissu. En dentelle récupérée, en fait. Un couteau, donc le manche est fait de bois, mais le couteau même en verre, un arc et sa flèche en verre, encore une fois. Puis, donc, la robe se présente comme étant une robe très simple avec des immenses poches dans lesquelles, donc, on peut y placer nos trouvailles. Dans le fond, on y retrouve des noix, des feuilles, des fleurs, des coquillages. Puis, donc, ça compose une de ses œuvres. Donc, on comprend vite, justement, là, un peu le personnage qui se crée autour de cette œuvre-là, donc le voyageur. Même chose encore, une fois, on en a une qui se retrouve à être une robe qui représente un peu le conteur, donc le chargé d'histoire, comme elle le traduit, qui est encore une fois une armure, donc qui sert de vêtement. Et dans lesquelles on y a placé, on y a en fait accroché plusieurs petites fioles dans lesquelles se retrouvent des minuscules photographies en noir et blanc qui racontent donc un peu des souvenirs, qui archivent certains voyages. Donc ce sont ça me semble être de très vieilles photographies, donc qui datent de plusieurs années. Des fois on parle de 20, 40, 50, 60 années, là, donc ce sont de belles images. Donc on peut tourner autour du vêtement, donc s'approcher pour regarder ces petites photographies-là.
Donc, il y a quelque chose qui est quand même assez narratif,
oui,
dans le fond,
oui,
dans l'utilisation
du verre. Oui, c'est pas d'une grande complexité, c'est-à-dire c'est très facile d'approche, mais le travail là-dedans est exceptionnel. Donc, on voit là, que c'est très minutieux. Ce sont des petits ornements, justement, en verre, donc qui demandent beaucoup de travail. Puis, quand on arrive dans l'exposition, on a le droit, il y a une vidéo à l'entrée, donc, qui nous montre un peu ses procédés, comment elle fonctionne. C'est une entrevue qu'elle a fait là, avec son conjoint, avec lequel elle partage souvent, justement, des différents événements. Donc, c'est une exposition qui se présente très bien, dont on fait le tour de façon très agréable. C'est très poétique. Son imaginaire est très poétique. Puis ça rappelle, ben, veux pas, un peu la princesse. Donc, le côté Cendrillon, on voit justement les chaussures, les slippers, comme ils les appellent, en verre. Donc, qui rappelle encore le conte de fées.
Mais oui,
des
on
couronnes,
se situe vraiment,
justement.
C'est ça, dans un monde féerique, là,
ben, quelques fois, pas toujours, mais donc, on n'a pas le choix, par contre, de faire le lien avec la fameuse pantoufle de verre, justement, de Cendrillon. Et cette fragilité-là aussi que présente le matériau en tant que tel, le verre, donc, qui est matériau qui est le matériau qui représente peut-être le mieux cette fragilité-là. Donc, elle l'utilise avec merveille, justement, comme ornementation. Donc, c'est une exposition qui juxtapose très bien, donc, deux mondes, donc, le vêtement et le verre. Donc, c'est vraiment de toute beauté.
Le tout dans un propos qui est encore
justement,
plus large, justement, qui interroge peut-être le vêtement,
les
limites.
Le vêtement, sur son utilité, aussi sa fonction en tant que vêtement de protection, parfois de protection d'apparat pour attirer. D'ailleurs, il y a justement une de ses œuvres qui s'appelle The Hooker, donc qui
la prostituée,
exactement, donc qu'elle a traduit par l'accrocheuse et qui est une sorte de nuisette. Très court, très échancré, dont l'ornement est le crochet de verre. Donc, très beau. On comprend tout de suite le message, pas besoin de lire nécessairement le cartel. Puis, en tout cas, je vais éviter de tout décrire, donc il faut vraiment y aller pour le constater. Mais c'est très poétique. Il y a une belle sensibilité dans son travail. Beaucoup de travail aussi. On voit là que c'est pas quelque chose qui
on est vraiment dans les métiers d'art. On n'est pas juste dans le concept, on est dans l'exécution d'abord et
exactement.
Avant tout.
Par contre, c'est les métiers d'art, mais vraiment très avec un regard très artistique. Elle-même, elle le dit dans cette entrevue qu'on peut regarder à l'entrée. Elle voit pas le travail du verre comme étant nécessairement un objet utilitaire, mais elle veut vraiment aller au-delà de l'objet utilitaire. Donc, c'est vraiment questionner l'objet en tant que tel. Elle s'intéresse beaucoup, justement, aux objets du quotidien. Donc, le vêtement est absolument un objet du quotidien. Donc, elle questionne le vêtement à travers, justement, sa façon de travailler. Puis, elle questionne en même temps aussi en utilisant d'autres objets qui appartiennent au quotidien, qu'elle a trouvé, qu'elle a grappillé ici et là, puis qu'elle a transformé, qu'elle a incorporé justement dans ses œuvres d'art. Donc, c'est vraiment de toute beauté.
Bien, Dominique Savoie, merci beaucoup. Tu nous donnes... Moi, j'ai pas encore vu cette exposition-là.
Ça vaut la peine.
Maintenant, je me dis que demain matin, dès l'ouverture de la galerie aux alentours de midi, je serai à Materia pour voir Dressing Up de Tania Lyons. Bonne semaine, Dominique.
Merci.
On s'en va en pause audio. On écoute un extrait de Between Downpours à CKRL 89.1. Alors, c'était un extrait assez subtil de Between Dawn Pours, tiré de l'album Substation de Robin Fox et Clayton Thomas, toujours sous la suggestion d'Éric Dorion. L'aérospatial tire à sa fin. Par contre, tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de terminer le calendrier de l'émission, alors ça me fait plaisir de pouvoir le compléter maintenant. Donc, toujours dans les événements cette semaine, il y a samedi le 30 novembre, je suis pas du tout dans les bonnes dates, alors je retire l'événement dont je voulais parler. Par contre, il y a beaucoup d'expositions encore en ce moment. En gramme, si vous voulez avoir un aperçu de l'estampe amazonienne, vous pouvez y aller. C'est une exposition qui est faite sous le commissariat d'Armando Sobral. C'est présenté jusqu'au 14 décembre. À la bande vidéo Traveling de Bertrand R. Pitt. Ensuite, à l'établi, une nouvelle exposition de Danny Taillon et de Marilyn Champagne. C'est pas une tout à fait une nouvelle exposition, je m'excuse, c'est Perception. À la maison, Amel Bruno a toujours cours l'exposition Concerto en bleu majeur, donc une exposition de création d'artistes qui sont intéressés par la musique ou par les correspondances entre la musique et la peinture. C'est une exposition qui a été faite sous le commissariat de Sébastien Hudon. Si vous avez envie de vous faire toucher, de vous émouvoir, de vous questionner sur votre vulnérabilité et sur celle de l'artiste, vous pouvez aller voir l'exposition d'Olga Chagaoudinova qui est présentée à Regards. Ça s'appelle Stormake. C'est déjà l'heure de la fin de l'aérospatiale. Avant de terminer, je vous invite à aller voter sur le site internet de ckrl.qc.ca pour votre émission préférée, votre musique préférée. Bref, il y a toute une série de questions. Vous pouvez gagner aussi 100 $, un cadeau en fait d'une valeur de 100 $, donc sur le site internet de CKRL. Je laisse l'antenne à Nicolas Dumont et son émission Les Bâtards, toute nouvelle émission sur les ondes de CKRL. Et j'en profite pour remercier Jacques Gignac pour la mise en onde et Dominique Savoie qui m'a accompagné tout au long de l'émission. Sur ce, bonne semaine à tous et restez à l'antenne de CKRL.